لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
Aujourd'hui on va parler de sujoud de tilawa. C'est celui qu'on fait quand on se prosterne, dont la cause est la lecture ou l'entente d'un verset du Coran dans lequel il y a une prosternation. En parlant de ce sujoud, il y a un fadl, il a un mérite qui a été rapporté dans le hadith sahih, rapporté par Muslim, Ibn Majah et Ahmed. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam lit un verset dans lequel il y a une prosternation, Shaitan s'éloigne et il pleure. Et il dit: malheur à moi, on lui a ordonné de se prosterner, il l'a fait, alors il aura le paradis. Et moi, on m'a ordonné de me prosterner, je ne l'ai pas fait, et je vais avoir l'enfer. Donc quand on se prosterne, ça enrage Shaitan. Et Shaitan, il pleure. De voir que le fils d'Adam, il obéit à Allah, il se prosterne, et lui, non. Il n'a pas obéi à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on lui a ordonné de faire sujoud. Il y a aussi d'autres versets, d'autres hadiths plutôt, qui parlent de la vertu du sujoud en général. Comme le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, hadith Abi Huraira, le hadith qui parle de l'intercession des croyants le jour du jugement. Le jour du jugement dernier, quand Allah voudra faire miséricorde à certains habitants de l'enfer, parmi les croyants, il va ordonner aux anges d'aller sortir tous ceux qui adoraient Allah. Et ils vont les sortir, ils vont les reconnaître avec les traces du sujoud, les traces de la prosternation. Car Allah a interdit au feu de l'enfer de brûler les traces de la prosternation du sujoud. Et tout le fils d'Adam peut être touché par le feu, sauf l'endroit où il s'est prosterné. Les endroits où il se prosterne, il n'y a pas les mains, le nez, le front, les genoux et les pieds, il ne sera pas brûlé. D'où l'importance de bien se prosterner sur tous les membres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Thauban a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un acte par lequel Allah va le faire entrer au paradis. Ce hadith rapporté par Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasai, Ibn Majah, c'est un hadith sahih. Il a dit: fais beaucoup de prosternation. Il a dit: car tu ne te prosterneras pas d'une prosternation sans que ce soit la cause de t'élever d'un degré et que Allah t'enlève un péché. Naam. كذلك حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي celui-là il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ya Rasulallah, ce hadith est rapporté par Muslim, Abu Daoud, Nasa'i et Ahmed, ou hadith sahih. Il a dit: ya Rasulallah, il a dit: quand je suis la nuit chez moi tout seul et je pense qu'au paradis tu vas être dans le darajat al-ula, dans les hauts degrés du paradis, et moi je vais être dans les bas degrés du paradis, ça me rend triste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: al-mar'u ma'aman ahab, la personne, elle sera ressuscitée avec ceux qu'il aime. Et un autre sahabi est venu voir le prophète, yarhamukallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ô messager d'Allah, je demande en ta compagnie au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: aide-moi contre ton âme bestiale en faisant beaucoup de prosternation. En ce qui concerne le statut de sujoud de tilawa, tous les savants sont d'accord pour dire que c'est mashrou. C'est une chose établie de faire sujoud de tilawa, sauf qu'ils ont divergé sur son statut. Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une recommandation? Parmi ceux qui ont dit que c'était une obligation, il y a Sufyan al-Thawri et Abu Hanifa, et c'est une version parmi l'imam Ahmed. Il faut savoir que l'imam Ahmed ibn Hanbal, souvent dans son madhab, il a plusieurs avis. Des fois il avait dit un avis et une autre fois un autre avis. Ça, c'est souvent rapporté de lui. C'est un avis aussi de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Eux, ils disent que c'est obligatoire pour quelqu'un qui entend être sujoud de se prosterner. Le deuxième avis juridique, et c'est l'avis de la majorité des savants, comme Malik al-Shafi'i, al-Awza'i, al-Layth ibn Sa'd, l'imam Ahmad Ishaq ibn Rawahawai, Abi Thawr Dawood ibn Hazm al-Zahiri, de même que c'était l'avis parmi les compagnons de Omar ibn al-Khattab, Salman al-Farisi, d'Abdullah ibn Abbas, de Imran ibn Hussein, parmi les sahaba, ça c'est leur avis. Eux disent que ce n'est pas une obligation ferme, mais c'est une recommandation. Tayyib. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire, ils se sont basés sur quoi? Eux ils disent dans le verset, Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, dans Sourate Al-Inshiqaq, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, qu'ont-ils à ne pas croire? Et quand on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas. Donc Allah, il a critiqué celui qui ne se prosterne pas. Et Allah Ta'ala ne veut pas critiquer quelqu'un s'il ne délaisse pas une obligation. Ça c'est ce qu'ils disent. Après on va voir qu'est-ce qu'on répond à ça. De même le verset dans sourate An-Najm où Allah Ta'ala dit: fasjudu lillahi wa'budu. Alors prosternez-vous pour Allah et adorez-le. De même Surat al-Alaq, wasjud waqtarib, et prosterne-toi et approche-toi. Donc ils disent tout ça, c'est des ordres qui prouvent qu'il faut se prosterner. De même, ils se sont basés sur un hadith sahih. C'est le hadith qu'on a lu juste avant. On a ordonné au fils d'Adam de se prosterner. Donc ils disent ordonner, umira, et l'amr lil wujub. De même, ils se sont basés sur la parole de Uthman ibn Affan. Il a dit innama sujudu ala man istama. Il a dit le sujud, il est pour tous ceux qui l'ont entendu. Donc ils se sont basés sur tout ça, sur l'apparence de tous ces versets et ces hadiths, pour dire que l'obligation elle est formelle, et ce n'est pas juste une recommandation. Taïb, la majorité des savants, ils ont répondu à ces hadiths. Premièrement, ils répondent au premier verset dans surat al-Inshiqaq, où Allah Ta'ala dit وَإِذَا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Qu'ont-ils à ne pas croire, et quand on leur lit le Coran, ils ne se prosternent pas? Le Jumhur, ceux qui disent que c'est recommandé, ils disent Allah Ta'ala n'a pas critiqué celui qui ne se prosterne pas comme ça. Ça, c'est celui qui ne se prosterne pas par orgueil. C'est-à-dire, il ne veut pas se prosterner pour Allah quand il entend le Coran. De même que ces versets, ils parlent du sujoud en général. Ça peut être obligatoire, oui, dans la prière. Mais ça ne parle pas spécialement de sujoud de Tilawa. On va voir pourquoi ils ont dit ça. Ils interprètent ce verset dans ce sens-là. De même, les deux autres versets où Allah Ta'ala ordonne de se prosterner, قَدْ نَحْمِلُهَا عَلَى الصَّلَاتِ. On peut dire que ça, il parle de la prière. Il parle d'une partie. Il faut savoir que des fois, comme par exemple dans la salat, une unité prière, on l'appelle comment? Une raka'a. Raka'a, en vérité, ça veut dire quoi dans la langue arabe? Ça veut dire juste une inclinaison. Pourtant, dans une raka'a, est-ce qu'on fait une inclinaison seulement ou on fait beaucoup d'actes? De même, ils disent, là, le sujoud, c'est pour dire pour la prière. Quand Allah, il leur ordonne de prier, quand ils se prosternent dans la prière, comme Allah Ta'ala dit, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Celui qui te voit quand tu te lèves et tes changements de position parmi ceux qui se prosternent. On va voir pourquoi ils sont partis sur cet avis-là en plus de ces versets. فعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها وفي رواية فلم يسجد منا أحد. والحديث أخرجه محمد البخاري ومسلم. زيد بن ثابت a dit, j'ai lu au prophète sallallahu alayhi wa sallam la sourate وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, dans laquelle il y a un sujoud. Il lui a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Et dans une autre version, et aucun d'entre nous ne s'est prosterné. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. طيب, si c'était wajib, si c'était une obligation formelle, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait délaissé le sujoud? Abadan. Autre chose. Donc là, il y a une histoire de Omar ibn Khattab qui est très claire, rapportée par le Bukhari, où il a lu Surat al-Nahl en plein khutbah. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de lire Surat al-Qaf dans le khutbah. Il ne fait pas le khutbah. La khutbah, c'est ça. Qaf, wal Qur'an al-Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum, etc. jusqu'à la fin de la surah. Salam alaykum salat. C'est ça la khutbah. Du Coran. Là, Omar ibn Khattab, il a lu quoi dans le khutbah? Al-Nahl. Du Coran. Quelle meilleure parole que la parole d'Allah? La différence, c'est que ceux qui étaient assis, ils comprenaient. Aujourd'hui, comme les gens ne comprennent pas, on est obligé de parler des paroles pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Non. Alors, il a lu surat al-Nahl. Arrivé à l'endroit de la prosternation, du sujoud, il est descendu du minbar, il a fait sujoud. Tout le monde a fait sujoud. La semaine d'après, il a refait encore surat al-Nahl. Et à l'endroit du sujoud, il a dit, oh vous les gens, on passe par des endroits pour faire le sujoud. Celui qui se prosterne, il a bien fait. Celui qui ne le fait pas, il n'aura pas de péché. Et il ne s'est pas prosterné. Et tous les sahaba, ils étaient présents. Aucun parmi les sahaba, radhiyallahu anhum, ils lui ont reproché cet acte. Si c'était une obligation formelle, il lui aurait reproché. Le fait qu'il ne lui ait pas reproché, c'est comme s'il y a eu ijma', comme s'il y a un consensus de tous les sahaba que c'est juste recommandé et non obligatoire. Donc le plus juste, c'est de dire que c'est une recommandation de faire la prosternation de la lecture du Coran et non pas une obligation formelle. Tayyib, comment tu fais la prosternation de Tilawa? Awala ittafaqa al-fuqaha ala anna sujud al-tilawa yahsulu bi sajdatin wahida. Premièrement, tous les savants sont d'accord pour dire que la prosternation de Tilawa, avec une prosternation, tu l'auras fait. Yahsul. Une prosternation, ce sera suffisant. Deuxièmement, comment tu fais sujoud de tilawa comme tu fais le sujoud dans la prière. Le front, le nez, les mains, etc. Tout ça, hein, ensemble. Il y a divergence entre les savants sur une question. Est-ce que pour faire sujoud de tilawa, on dit Allahu Akbar ou non? Est-ce qu'on dit Assalamu alaikum après sujoud de tilawa ou on ne le dit pas? Et il faut savoir que nous, on adore Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Il n'y a pas un hadith sahih qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allahu Akbar pour aller faire ce sujoud de tilawa. Et tous les hadiths qui sont cités, ils ne parlent pas de takbir. Ils disent il a lu le verset du sujoud, il s'est prosterné, on s'est tous prosternés. Ils ne parlent pas ni de takbir, ni de taslim, ni rien. Les quatre imams, ils ont dit qu'il n'y a pas de salam alaykoum dans ce sujoud de tilawa. Il n'y a pas de taslim à la fin. Sauf qu'ils voient qu'on fait de takbir. Comme on va le voir, il y a une différence entre la prière et en dehors de la prière. Certains ils disent que tu ne fais pas de takbir en dehors de la prière comme dans la prière. Cheikh l'Albani dit ça. Après, il y a un deuxième avis qui dit en dehors de la prière, il n'y a pas de takbir. Mais dans la prière, il y a un takbir. Et un troisième avis qui dit il y a un takbir tout le temps. Maintenant, on va parler d'un petit peu sur quoi il s'appuie chacun. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de takbir, ils disent il n'y a rien qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le takbir. La base dans les adorations, c'est tawqif, c'est que tu fasses rien tant que tu n'as pas un dalil. Donc, comme il n'y a rien qui prouve qu'il a fait le takbir pour sujoud de tilawa, on ne le fait pas. Voilà la position de ceux qui disent on ne fait pas de takbir. Ceux qui disent qu'on fait le takbir dans salat, on ne le fait pas en dehors, ils disent oui, il n'y a rien qui prouve qu'on fait le takbir pour sujoud de tilawa, donc on ne le fait pas. Mais dans salat, il y a un hadith qui prouve qu'on fait le takbir. C'est quoi ce hadith? C'est le hadith de Wa'il ibn Hujr, qui est un hadith acceptable, rapporté par l'imam Ahmed al-Darami et Tayal ici, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il disait Allahu Akbar, il levait les mains, et qu'il disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il se baissait ou qu'il se levait dans la prière. Donc ils disent le sujoud de tilawa, ça fait partie de se baisser et se lever. Donc ça rentre dedans. Mafhoum? Et ceux qui disent que tu fais sujoud tout le temps, ils se basent sur ce hadith, comme ils se basent sur d'autres hadiths qui sont da'if. Il y a un hadith rapporté par Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait par un sujoud, il disait Allahu Akbar, il se prosternait, on se prosternait. Mais ce hadith, il est da'if. Il n'est pas rapporté par Al-Bayhaqi et Abu Daoud, mais c'est un hadith da'if. Il n'est pas sahih. Ce hadith de Wa'il ibn Hujr, qu'on a vu juste avant, Cheikh l'Albani, il le connaît aussi. Lui aussi, il dit qu'il est sahih, ce hadith. Pourquoi? Il est hassan, il est acceptable ce hadith. Pourquoi il dit alors que dans la prière tu dis pas Allahu Akbar? Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit ce hadith il parle des actes généraux dans la prière. Il parle pas de sujoud de tilawa précisément là. Il dit donc ça c'est pour la prière à chaque fois qu'il se lève, qu'il se rabaisse et qu'il se relève. Et les autres ils ont pris en général. Ils ont dit à chaque fois. Et Cheikh Al-Albani dit non. Wa'il ibn Hujr il a rapporté ce qu'il a vu. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Dans la prière normale, en général, la plupart des prières où on prie, il n'y a pas sujoud de tilawa. Il l'a vu dire Allahu Akbar chaque fois qu'il se baise et qu'il se lève, c'est dans la prière. Non. Une autre question. Est-ce que c'est une condition d'être en état de pureté et de se diriger vers la Qibla pour sujoud de tilawa? Cette question aussi, ils ont divergé. Il y en a, ils ont dit le sujoud, c'est une partie de la prière. C'est comme la prière, c'est une partie de la prière. Donc, pour le sujoud, il faut toutes les conditions qu'il faut pour la prière. Satr al-awra, istiqbal al-qibla, al-tahara, etc. Le wudu, etc. etc. D'autres, ils ont dit non. Hada kalam al-jumhur. Ça, la majorité voit ça. Walakin Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa ibn Hazm, et d'autres ulama parmi les mu'assirin, parmi les contemporains, ils ont dit ce n'est pas une condition. Et ça, c'est l'avis de Ibn Omar et de Sha'bi et de l'imam al-Bukhari aussi. Rahimahumullah jami'an. Sur quoi il s'appuie pour dire que ce n'est pas une condition? Awwala, hadith d'Abdullah ibn Abbas, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu surat al-Najm. Il s'est prosterné. Tous les musulmans, ils se sont prosternés. Les associateurs, ils se sont prosternés. Les djinns, ils se sont prosternés. Et les hommes, ils se sont prosternés. Tout le monde, tous ceux qui étaient sur la place, ils se sont prosternés. Taïm. C'est impossible que tous ceux qui étaient là, ils avaient tous le wudu. Donc ça prouve que ce n'est pas une condition d'avoir le wudu pour faire ce sujoud de tilawa. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, celui qui n'a pas le wudu, il ne se prosterne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas retarder une explication s'il y a un besoin. Par exemple, là, c'est un besoin. Les gens, ils ne savent pas. S'il ne l'a pas dit, s'il ne leur a pas dit à ce moment-là qu'il fallait les ablutions pour se prosterner, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Sinon, obligatoirement, il aurait dû leur dire. Une autre question. Quelqu'un qui est en train de marcher ou quelqu'un qui est sur une monture, en voiture, et il passe par une ayat al-sajda, comment il fait le sujoud? Juste avec sa tête, il baisse sa tête, ce sera suffisant. Warada dalika, ça a été rapporté par certains sahaba, par Ibn Omar, radiallahu anhu, quand on lui a demandé comment il fait quelqu'un qui est sur sa monture, il a dit yu'mi'u. Il va juste baisser la tête comme ça. Il fait ça, c'est suffisant. Fahimtum? Ça a été rapporté aussi par certains compagnons de Abdullah ibn Mas'ud qu'il faisait cette chose-là. Qu'est-ce qu'on dit quand on est prosterné? Il y a un hadith qui est rapporté, mais ce hadith il est da'if. En fait, il n'y a pas un hadith sahih qui est rapporté spécialement dans le sujoud de tilawa. Donc tu diras dans le sujoud de tilawa ce que tu dis dans le sujoud normal. Et parmi les du'as qui sont rapportés dans le sujoud normal, c'est celui qu'on vient de dire. Celui-là, il a été rapporté, mais dans le sujoud normal. Dans le sujoud de la prière. C'est un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, akhrajahu muslim. Mais dans la prière, il n'a pas parlé de sujoud de tilawa. Donc, dans le sujoud de tilawa, tu peux dire toutes les du'as qu'on dit dans le sujoud de la prière. Parmi les du'as qu'on dit, celles qu'on vient de dire, ou bien subhana rabbi al-a'la, ou bien subbuh al-quddus, rabbu al-malaikati wal-ruh, etc. Toutes les du'as à dire dans le sujoud, dans la prière. Non. Il y a un accord entre les savants que celui qui lit, lui, il se prosterne. Taïb, celui qui entend. Certains ulama disent le mieux, c'est de ne pas le faire. Si lui, il dit si celui qui a lu, il se prosterne, on se prosterne. Sinon, on ne se prosterne pas. Wa dalilu ala dhalik. C'est le hadith d'Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait, il dit il se prosterne et on se prosternait après lui. Donc c'est comme si c'était l'imam. Celui qui lit le Coran et il y a une ayah de sujoud, il se prosterne et nous, comme si c'était notre imam, on se prosterne derrière lui. C'est permis. Si tu entends une ayah de sujoud et lui, il ne se prosterne pas, toi aussi, tu as envie de te prosterner, tu peux te prosterner. Walakin l'ayat akad, ce n'est pas fortement recommandé. Ce sera fortement recommandé au cas où il se prosterne, là tu te prosternes avec. De même, la nudité. Par exemple, une femme est chez elle, elle lit le Coran. Elle est habillée avec les habits de la maison. Et elle passe par un verset où il y a sujoud de tilawa. Elle pourra faire sujoud de tilawa à la hayatiha, comme elle est. Car ce n'est pas, on a dit, un shart, une condition de satr al-awra pour faire sujoud de tilawa. La shakka, c'est clair que c'est mieux. Celui qui yastur awrata wa yatawadda wa yastaqbil qibla hada, afdal. Autre chose, que l'on entende les versets de sujoud dans les moments où c'est détestable de faire la salat. On peut aussi se prosterner à ce moment-là, car ce n'est pas une salat. De même que si on répète un même verset dans lequel il y a sujoud de tilawa, le mieux, si on veut en faire qu'un sujoud, on le fait à la fin. On le fait à la fin, on le délaisse à la dernière fois où on lit ce verset. Par contre, si on fait le sujoud au premier verset, à chaque fois qu'on relit le verset, il sera recommandé de refaire le sujoud. Car on peut retarder le sujoud, mais si on le fait à l'avance, à chaque fois la cause de refaire le sujoud se renouvelle. Donc, celle qu'on a fait à l'avance, elle ne compte pas. Le sujoud doit être fait après avoir entendu le sujoud, la ayah de sujoud, contrairement à ce que Abu Hanifa a dit, qui dit que ça suffit de faire un sujoud au début. Hein? Mais le Jumhur, ils disent le contraire. Wallahu a'lam, c'est le plus juste. Limada li'annahu yatakarraru sabab. Car à chaque fois, la cause, elle se répète. Et que le sujoud, il doit venir après la cause. Et qu'il n'y a pas de mal à retarder un peu le sujoud si, le temps n'est pas trop long. Alors que si on le fait à l'avance, à chaque fois que la cause, elle se répète, on devra le refaire. Naam. Sujoud de lecture dans la prière. C'est établi dans la religion, car Abi Huraira radiallahu anhu rapporte que Omar ibn Khattab a lu Surat al-Najm, il s'est prosterné, puis il s'est levé, il a lu une autre surat derrière, et comme on a vu, comme on va voir plus tard, il a lu Surat al-Inshiqaq juste derrière. De quelle manière on doit faire ce sujoud? Si par exemple, sajda elle arrive à la fin de la surah ou à la fin du verset où on veut s'arrêter. Par exemple, quelqu'un il lit l'alaq. Trois situations. Omar ibn Khattab, il a lu surat al-Najm, il s'est prosterné à la fin, il s'est levé et il a rajouté une autre surat derrière pour ne pas coller tout de suite le recours juste après, pour pas aussi troubler les gens. Comme ça, il s'est prosterné, il a rajouté encore de la lecture derrière pour faire après le recours et les sujoud de salat, pour que ce soit clair et que les choses ne se mélangent pas. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Mais il a été rapporté de certains sahaba comme Abdullah ibn Omar qu'on peut aller directement au recours et que ce sera suffisant. Si par exemple on vient de finir et on fait un recours, on peut le faire. Walakin hadha makruh 'inda jumhur al-ulama, la majorité des savants voient que c'est makruh. C'est détestable de faire cela car ça peut tromper les gens. Il y en a, il va aller en sujoud, l'autre il va rester en recours. Personne ne va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Donc le mieux c'est de ne pas faire cela. C'est permis. Si quelqu'un le fait, c'est permis car ça a été rapporté par certains sahaba. Hein? Mais la meilleure façon, c'est de faire comme Omar radiallahu anhu a fait. Mais si que l'on fasse la première, la deuxième ou la troisième, c'est valable. Les trois sont valables. Mais la première façon est la meilleure. Wallahu ta'ala. Il faut savoir que dans le Coran, il y a 15 endroits où on fait sujoud. 10 où il y a ijma', où il y a unanimité entre les savants. 4 mukhtalafun fiha, 4 où les savants ont divergé, mais ça a été rapporté par des hadith sahih. Et 1 qui n'a pas été rapporté dans un hadith sahih, mais par des hadith da'ifa, mais que les sahaba tous ils pratiquaient et tabi'un ils pratiquaient. Qui est dans Sourate Al-Hajj. Donc, Wallahu A'lam Sahih, c'est que ces 15-là, ces 15 endroits-là, ce sont des endroits dans lesquels on fait sujoud. Je vous passe de les citer. C'est les 15 que vous trouvez dans le Masahif Al-Madina. Hein, dans le Masahif Al-Madina, qui sont là, les vers qui viennent de Saoudie, c'est ces 15-là. Donc voilà en ce qui concerne la prosternation de la lecture. Une autre prosternation qui ressemble à ça, c'est sujoud de shukr. La prosternation de reconnaissance envers Allah, pour remercier Allah. Les hadiths qui parlent de sujoud al-shukr sont nombreux. Tous ces hadiths-là, il y a quelque chose à redire sur leur véracité. Mais certains muhaddithines, savants du hadith, érudits du hadith, voient que tous ces hadiths réunis ensemble se renforcent les uns les autres et on peut dire que c'est mashrou', que c'est une chose qui existe. Parmi ces hadiths, c'est le hadith d'Abi Bakra. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui venait une chose qui lui plaisait, ou bien une bonne nouvelle, il plongeait en prosternation par remerciement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est en ce qui concerne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait. Par contre, il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim que Ka'b ibn Malik il l'a fait. Quand ils n'ont pas parti à la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les musulmans les ont exilés pendant 50 jours. Et après cela, quand on est venu lui annoncer la bonne nouvelle de son repentir, il s'est prosterné. Donc, sujoud de shukr, c'est la même chose que sujoud de tilawa. La différence, on ne peut pas la faire dans la prière. Sa prière, elle est invalide. Car il a rajouté quelque chose dans la prière qui n'en fait pas partie. À part cela, tout le reste, c'est comme sujoud de tilawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.